Radio Okapi.
Okapi Service. Jody Daniel Kachama. Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est pour nous un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui, fidèles auditeurs, pour vous servir. Merci d'être branchés sur la fréquence de la paix. Blanchissement d'argent et financement du terrorisme. Que dit la loi à ces sujets? Maître Ruffin Louco est avec nous. Il est chercheur en droit et écrivain. Il a écrit, auteur de plusieurs ouvrages. Maître Ruffin, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à tous nos auditeurs.
Bienvenue dans cette émission qui porte sur le blanchissement d'argent. Des questions et préoccupations, écrivez-nous à service@radiookapi.net. Vous pouvez également poster vos questions et préoccupations sur la page Facebook de l'émission Okapi Service. Et à partir de 11h05 heure de Kinshasa, nous allons parler des réseaux des fake news. Comment les journalistes peuvent-ils contrer les fake news dans les réseaux sociaux? Eh bien, nous recevrons Monsieur Jean-Pierre Ilboudou, représentant de l'UNESCO en RDC, et le professeur Lino Pungi, expert en communication. Voilà, ainsi présenté le menu d'Okapi Service aujourd'hui. Pour participer, composez déjà le 081-890-6394 et écrivez-nous à service@radiookapi.net. Et puis, vous pouvez également nous écrire à service@radiookapi.net. Nous allons parler du blanchiment, voilà, pas blanchissement comme je l'ai dit. Il s'agit plutôt du blanchiment d'argent. Excellente condition d'écoute de ce magazine de la vie au quotidien.
Okapi Danse. Okapi Danse, c'est la découverte de nouveaux talents, de nouveaux sons des Congolais, d'ici et d'ailleurs. De mercredi à vendredi, à partir de 23h et le samedi à 21h.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité d'Okapi Service.
Bien, nous parlons à présent du blanchiment d'argent et financement du terrorisme. Qu'est dit la loi? Eh bien, le blanchiment d'argent ou des capitaux est une pratique très courante dans le domaine des affaires. Pour dissimuler la provenance d'argent acquis par des voies illicites, certaines personnes vont investir cet argent dans des activités légales. Il y a par ailleurs d'autres personnes qui mettent beaucoup de moyens pour financer les actes de terrorisme. Alors que dit la loi congolaise à propos des faits de blanchiment d'argent ou financement du terrorisme? Nous recevons aujourd'hui Maître Ruffin Louco, il est chercheur en droit et auteur de plusieurs ouvrages. Maître Ruffin, encore une fois, bonjour.
Bonjour, Jolie.
Alors, commençons par les commencements. C'est quoi le blanchiment d'argent?
Bon, vous l'aviez bien fait de corriger déjà.
De corriger déjà.
Blanchiment, c'est pour les habits.
Ah, bien, c'est
blanchiment.
Ça.
Alors, blanchiment, c'est pour les capitaux.
D'accord.
Alors, à quoi consiste le blanchiment? Blanchiment, c'est l'effet pour des opérateurs politiques, économiques, sociaux et consorts, de faire des affaires dans le domaine, n'est-ce pas, dans le domaine généralement quelconque. Ça veut dire, ces domaines généralement quelconques, ça peut être le domaine de la drogue, le domaine des organes, le domaine de la corruption, des détournements, de toutes sortes d'infractions qui produisent des avantages. Je parle de toutes sortes d'infractions qui produisent des avantages. Alors, vous avez œuvré, vous avez travaillé, vous avez opéré dans un secteur infractionnel qui vous a produit des avantages matériels, financiers, et vous faites quoi? vous achetez une uniforme blanche. Ça veut dire, vous blanchissez, en quelque sorte. Mmh. Maintenant, ici, on parle de blanchiment. Vous transformez ce qui était noir,
en blanc.
C'est ça, les blanchiments. J'aime le terme, entre guillemets, vous purifiez ça. N'est-ce pas? On ne peut pas parler de sanctifier. Donc, vous rendez ça propre. Alors que ça vient d'un domaine infractionnel, d'un domaine criminel. Et ce domaine-là, généralement, en Afrique.
C'est le domaine de la drogue.
La drogue, principalement. Mmh. Le trafic d'organes, le trafic d'êtres humains, et le trafic de toutes sortes de produits interdits, n'est-ce pas? Mmh. Il y a des produits qui sont interdits et que vous ne pouvez pas ni servir, ni trafiquer, ni lancer dans les commerces. Alors, il y a des opérateurs qui sont dans ces secteurs-là et qui ont des millions de dollars. Alors, comment ils blanchissent? Soit ils construisent des écoles, ils construisent des bâtiments, ils construisent des ponts, ils construisent des dispensaires, ils peuvent blanchir par toutes sortes de moyens. Même donner des dons au gouvernement, ou au gouvernorat, ou au parlement, et consorts. Oui. Même donner des dons. Mais l'argent en question vient d'origine délictueuse, ça veut dire.
C'est ça criminelle. Qu'on appelle l'argent sale.
L'argent sale. Mais désormais purifié, désormais blanchi.
Blanchi,
ça veut dire il n'y a plus de tâche. Parce que maintenant, c'est une école publique. Maintenant, c'est un hôpital qui sert tout le monde. Cet argent-là devient blanchi, devient, n'est-ce pas, et purifié, entre guillemets. Et c'est cela que la loi a voulu. Et je me rappelle que lorsque cette loi a été prise, nous sommes là en 2004, et c'était donc après Sun City, et dans la coopération internationale de notre pays, notre justice, nos services avec les autres du gouvernement, on avait remarqué que tout simplement, eh bien, il y avait dans notre pays ici, l'étendue du territoire national, a commencé par Kinshasa, et Kasaï, et Katanga, principalement, et en province orientale, il y avait plusieurs opérateurs qui faisaient ces affaires-là et qui étaient connectés à plusieurs maisons libanaises et indo-pakistanaises pour soutenir le terrorisme. Mais dire ici, ils font des affaires, soit dans les diamants, dans les cassiterites, dans l'or et consorts, dans les matières précieuses, et dans les trafics d'organes, dans les trafics d'êtres humains, des esclaves qui étaient envoyés ou des gens à qui on promettait
une bonne vie en Europe,
alors que on allait les capturer là-bas pour, n'est-ce pas, arracher leurs organes après les avoir tués éventuellement ou avoir endormi, des choses comme ça, hypnotiser tout ça. Et ça leur a porté beaucoup trop d'argent où on avait constaté qu'ils étaient en connexion avec des entreprises terroristes qui étaient au Moyen-Extrême-Orient. Et donc, il fallait rapidement que notre pays puisse se mettre à la page et arrêter de transformer notre pays, n'est-ce pas, en une plateforme, n'est-ce pas, de tous ces trafics-là. Parce qu'évidemment, c'est ainsi que vous aviez vu que dans des années 90 aux années 2000, eh bien, ceux qui ont beaucoup prospéré parmi les entrepreneurs ici, c'est ça, de ces origines-là, indo-pakistanais, ce sont eux qui ont le plus prospéré parce qu'ils étaient dans tous les secteurs, alors qu'ils étaient appuyés pour la plupart par, n'est-ce pas, des entreprises terroristes, et ce qui faisait que l'inquiétude avait été telle qu'il fallait absolument que cette loi intervienne sur le blanchiment d'argent.
La loi du 4, la loi 04, hein,
la loi
016 du 19 juillet 2004. Alors, qu'est-ce qu'elle stipule concrètement?
Elle stipule d'abord principalement que cette loi stipule que principalement tout celui avec qui on trouverait en train de traverser la frontière avec plus de 10 000 dollars en espèces, plus de 10 000 dollars, l'argent sera saisi et la personne sera arrêtée. Donc ce qui fait que tout, d'abord, la première prescription et la première innovation de cette loi, c'est toute transaction internationale doit se faire par voie bancaire. Par voie bancaire.
Pour que ce soit bien contrôlé.
Pour la traçabilité. Pour qu'on sache ça vient d'où
et ça va où.
Ça va où et ça va pour quel service. Le libellé, n'est-ce pas, de la destination. Le libellé de l'affectation. Ça va servir à quoi? Ah donc, sur nos frontières, où que vous soyez partout, vous êtes donc, je cite, la première frontière de la République, c'est l'aéroport international d'Ingili, c'est la première frontière, donc c'est la première porte de sortie et d'entrée.
Donc personne ne peut voyager avec 10 000
dollars.
Plus de 10 000 dollars.
C'est la loi de 2004 l'interdit. On considère ça comme un transport illicite d'argent. Donc c'est dans la prévision légale. Donc ce qui fait que si vous avez des affaires à faire,
des affaires à effectuer à l'étranger et que vous avez besoin d'utiliser de l'argent ou des capitaux, eh bien, vous laissez l'argent dans votre compte, vous allez avec une carte de crédit ou bien vous faites un ordre de virement pour que vous n'ayez pas de difficultés de transporter l'argent à la main. Donc, ça devient archaïque en RDC.
De voyager avec
des espèces au-delà du Kenya. Vous voyez?
Et donc, il est même interdit de retirer toute somme égale ou supérieure à 10 000 dollars auprès des banques.
Oui, auprès des banques, parce que vous devez toujours donner vous devez donner la destination et la provenance. C'est important. Donc ça c'est évidemment pour protéger le trésor public et pour protéger le pays et surtout l'économie nationale. L'économie nationale par rapport aux fluctuations, surtout pour protéger nos entreprises publiques. Et les entreprises qu'on appelle des droits congolais, donc c'est-à-dire, ils peuvent être des étrangers, mais des droits congolais. Ces entreprises-là, nous avons perdu beaucoup d'argent dans ce qu'on appelle la fuite des capitaux. Donc, c'est-à-dire, les gens font des milliards ici, et ces milliards
sont transférés ailleurs.
Transférés frauduleusement dans leur pays d'origine, sans que le trésor public n'ose pas en intercepte la traçabilité.
Et ça va financer le terrorisme.
Le terrorisme et d'autres histoires. Il n'y a pas que le terrorisme, il y a beaucoup d'autres choses à l'étranger auxquelles cet argent, n'est-ce pas, est affecté, et ce sont des activités criminelles. Autant chez nous, autant à l'étranger. Alors, tout cet ensemble, la seule chose qui nous permet, n'est-ce pas, de faire la traçabilité, c'est la voie bancaire. Et c'est ainsi que vous rappelez, ensuite est venu ce qu'on appelle la bancarisation. La bancarisation, donc, c'est la loi qui a commencé la bancarisation, c'est la loi numéro 04 de 2004. Donc, c'est elle qui a commencé la bancarisation.
La bancarisation. On va accueillir les auditeurs et nous allons revenir sur cette loi. Voilà. Nous avons en ligne Gilbert Lokwa de Mbandaka, Serge Kalobia de Kindu, Maître Gaston depuis Idiofa. Voilà, nous parlons du blanchiment d'argent. Gilbert Lokwa, bonjour.
Bonjour la radio Kabi, je salue aussi Maître qui est au plateau. Vraiment, merci beaucoup pour ce sujet très pertinent parce que nous aussi on avait des lacunes. Et moi personnellement, je pensais que si on parle de branchement des capitaux, on voyait beaucoup plus les transactions internationales. Lorsque quelqu'un quitte, par exemple, le Congo pour aller au Cameroun, et lorsque la personne est accompagnée avec une somme au-delà de 10 000 dollars, donc la personne a branché le capital. Donc, on voyait, on va l'invité qui est avec vous au plateau, il nous a dit que non, on peut faire un branchement, même sous d'autres formes. Donc, quelqu'un qui a détourné quelque part.
Alors, quelle est la question, Gilbert? Quelle est la question?
L'argent qu'on appelle l'argent sale et
la question
a même les hôpitaux.
Quelle est la question que vous adressez à l'invité?
La question que je voulais poser à l'invité, c'est de savoir, est-ce que vraiment au Congo, il y a vraiment l'applicabilité de cette loi? Parce que chaque jour, il y a des branchements dans notre pays. Chaque jour, moi-même, je connais. Et je sais pourquoi je vais. Chaque jour, les gens quittent le Congo pour aller à l'étranger avec des sommes, alors même jusqu'au 5 000 dollars. Est-ce que vraiment au Congo, il y a l'applicabilité de cette loi? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, je voulais juste savoir, est-ce qu'il y a le lien? Quel est le lien entre le blanchiment qu'on parle aujourd'hui et le détournement? Parce que c'est comme si, on voulait faire allusion à ces deux concepts, on pourrait dire que non, c'est la même chose. Parce que quelqu'un qui a acquis l'argent salement d'une manière sale, la personne peut la considérer.
Voilà. D'accord. Lien entre blanchiment et détournement. Merci. Serge Kalobia de Kindu, bonjour.
Bonjour à Dio Kapi et bonjour à notre invité, Rifel Louko, que j'aime beaucoup.
Quelle est votre question, Serge?
Oui, le problème, c'est que je voudrais d'abord commencer à dire à M. Rifin Louko que cette loi-là, même si elle sera appliquée chez nous, elle n'aura pas d'effet parce que chez nous, au Congo, nos politiciens ne gardent plus l'argent dans les banques. Ils ont les cash dans leurs maisons. Selon certaines des questions que nous avons, nos politiciens aujourd'hui au Congo ne gardent plus l'argent dans les banques parce qu'en cas de problème, l'argent se trouve toujours dans la maison. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que je voudrais au moins poser la question à notre invité. Quels sont les indices pour reconnaître que les œuvres que nous voyons, tout ce que nous voyons là, c'est de l'argent venu dans des endroits noirs? Parce que aujourd'hui, chez nous, si ce que M. Rifin Louko là venait de nous donner comme explication, c'est ça, le blanchiment d'argent. C'est que tout celui que l'IGF a pointé comme détourneur et qu'ils ont, il a aujourd'hui des œuvres, Est-ce que pouvons-nous considérer ces œuvres-là comme de l'argent venu dans les noirs? Évidemment, avec réserve, parce qu'il n'y a pas encore eu la culpabilité. Mais si, après que l'IGF puisse dénoncer et que les parquets condamnent, toutes ces œuvres-là, toutes ces réalisations-là seront considérées comme telles, ça c'est la première question. Et la seconde, question, je pense que je venais déjà de la poser. Voilà.
Merci Serge. Maître Gaston Gandou, vous êtes à Idiofa, bonjour. Maître Gaston, bonjour. Il n'est plus en ligne. Nous parlons du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme. Maître Ruffin, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces deux auditeurs?
Évidemment, on n'avait pas encore terminé. C'est pourquoi, oui. N'est-ce pas, toutes ces questions d'ailleurs se rapportent au fait qu'on n'a pas terminé l'exposé de départ. Alors, rapidement, le premier auditeur parle de, il avait écrit seulement que le blanchiment d'argent, c'est dans les trafics, dans les voyages internationaux, dans les trafics, n'est-ce pas, entre les Congolais, le Cameroun, tout ça, à sortir de nos frontières. Non. D'ailleurs, cette loi, c'est la loi qui nous a attendu depuis tout ce temps. On l'attendait depuis, on s'est bâti, n'est-ce pas, en tant que société civile, pour que cette loi puisse être, n'est-ce pas, adoptée chez nous, pour permettre à ce que nous sachions qu'il y a quel travail, avec quel salaire, pour avoir tout ce qu'il y a. Voilà, donc c'est ça le résumé. Vous voyez, donc, lorsqu'ils se plaignent des dirigeants qui ont des histoires, qui maintenant aujourd'hui
ont trouvé
l'imagination qu'ils gardent maintenant, la banque devient dangereuse, il faut garder la cagnotte à la maison. Cette cagnotte venant des origines délictueuses ou criminelles, mais on va les rattraper. Maintenant, la loi ici nous donne la possibilité, parce que cette loi prévoit que même pour acheter un immeuble et une voiture de luxe, c'est cette loi qui interdit les opérations en espèces sans passer par la voie bancaire. Vous voyez? Donc là, nous sommes en train d'atteindre l'occidentalisation, la modernisation des affaires. Ça veut dire, cette histoire de chez nous où les gens achetaient une maison à 2 millions de dollars et vous amenez la cagnotte dans des sacs d'argent, ça va se terminer incessamment. Et ne dites pas que est-ce que l'autre qui a posé la question, quelle est l'applicabilité de la loi, cette loi en RDC. Vous posez cette question pour Nanobakangi, on a noté. Rappelez-vous, il y avait un procès où d'ailleurs j'étais l'avocat de la République, un procès des Indiens et des Libanais qu'on avait attrapés à l'aéroport avec le diamant, les cassiterites et 270 000 dollars
cash. Ils avaient ça dans les sacs.
Ils avaient ça. Ça s'était passé en direct. Si ma mémoire est bonne, c'était en 2014 ou 2015, comme ça. Et on les a attrapés. Des sujets indo-pakistanais qui étaient attrapés à l'aéroport de Ndjiri par nos agents de la RVA. Et d'ailleurs, nous nous rappelons que celle qui avait attrapé, c'était une femme. Et que la République
par les agents de l'immigration.
Non, de la RVA.
De la RVA.
De la Régie des voies aériennes. Donc, et il y a eu procès. Et on a saisi. Donc, le tribunal a ordonné, c'était le tribunal de Kinshasa Gombe, a ordonné et la saisie de matières précieuses.
Et la saisie de trésor.
Et la saisie de l'argent, en espèces.
Et donc, quelle explication ils ont donné
par non, mais c'est l'explication quelconque, ce sont des fraudeurs. Donc, ce sont des criminels. Les explications qu'ils donnent, non, nous avons acheté ça, la cassiterite, le coltan, nous avons acheté ça, et le diamant, on a acheté ça. Et à l'époque, c'était encore à la gare centrale, vous vous rappelez, à la gare centrale où on vendait les œuvres d'art. À la gare centrale. Ils ont donné toutes sortes, alors qu'ils revenaient d'Mbujimaï et du Katanga. Alors qu'ils venaient, les services, comme le procès passait en direct, les services ont envoyé les pièces, les documents qui prouvent que ces gens-là, notre justice a arrêté, sont venus d'Mbujimaï et de Katanga, et voici d'ailleurs leurs documents migratoires en photocopie. Donc bref, c'est pour dire tout ça. Ça vient, l'argent vient des origines délictueuses ou des origines criminelles, et cet argent-là est blanchi maintenant à la personne, les personnes qu'on avait, c'était un réseau qui construisait des cités en Inde. Par l'argent du diamant congolais, de l'or congolais.
Mais c'est qu'il y a aussi des sujets congolais, des politiques qui ont beaucoup d'argent, l'argent mal acquis. Alors pour blanchir cet argent, bon, on construit des supermarchés un peu partout.
C'est exactement.
Des sujets indiens.
Et ils sont des associés.
Dans l'immobilier.
Une petite enquête suffit pour dénicher tous ces gens-là. Donc la traçabilité de l'origine de l'argent. Ça veut dire, vous avez été premier ministre. Votre salaire est connu. Mais vous vous retrouvez à la fin de votre mandat, vous avez construit une cité. Vous avez construit des immeubles.
Et je ne cite pas les noms des premiers ministres, parce que lorsque nous parlons comme ça, la population sait de qui il s'agit. Vous avez construit des immeubles, des concessions pharaoniques. Donc, la concession là, pharaonique, donne déjà les indices extérieurs qu'il y a quelque chose qui a été blanchi ici. Oui. Parce qu'on connaît votre salaire. Non, on peut remonter facilement et on saura... Vous voyez, vous croyez que tous ces supermarchés qui prospèrent, qui poussent comme des champignons, l'argent est propre, l'origine de cet argent est propre. Regardez, les gardistes, donc ce déploiement de supermarchés que nous saluons,
c'est une bonne chose
ah, pour le monde de la République. Oui. Mais si vous creusez, parce que nous ne devons pas chaque fois voir notre population crier. Les gens meurent chaque jour parce qu'il n'y a pas de soins de santé. Les enfants sont chassés des écoles parce que nos écoles ne sont pas fournies en argent. Alors qu'il y a des opérateurs économiques et autres qui ont l'argent entre leurs mains. Donc, c'est important que notre justice y annonce pas. Rappelez-vous que lorsque la loi et la constitution avaient imposé que tous les dirigeants politiques, à l'entrée, ils doivent déclarer leur bien. Et à la sortie, personne ne suit ça. Or, si on creuse seulement sur votre entrée et votre sortie, combien avez-vous accumulé? C'est tout le monde qui est attrapé.
Les autres dispositions de cette loi?
Alors, les autres dispositions de cette loi, c'est que lorsque, d'abord la loi, son article 3 dit, l'expression produit de l'infraction désigne tout bien ou tout avantage économique tiré directement ou indirectement d'une ou plusieurs infractions. Cet avantage peut consister en un bien tel que défini au point D du présent article. Donc, ça c'est en ce qui concerne le produit de l'infraction, parce que le produit de l'infraction, lorsque c'est intercepté par nos services, ce produit de l'infraction doit être saisi. Alors, je peux encore donner quelle est l'infraction d'origine. Il faut toujours dans le blanchiment d'argent l'infraction d'origine. Qu'est-ce que signifie infraction d'origine? L'infraction d'origine désigne toute infraction pénale, même commise à l'étranger. Donc, quelle est l'infraction d'origine de ce que tu as fait pour obtenir cet argent-là. Voilà, c'est ça l'infraction d'origine.
Par exemple, le trafic des drogues.
Ou bien les Shekula. Vous connaissez les Shekula, je crois que la notre population, c'est les Shekula.
C'est quoi les Shekula?
Les Shekula, c'est le système des Congolais à l'étranger de dévaliser des banques. De dévaliser des postes. Vous vous rappelez à l'époque où l'argent était encore transféré par voie postale. C'est-à-dire vous mettez ça dans l'enveloppe et la poste envoie. Alors il y a des Congolais qui s'étaient spécialisés à ouvrir les boîtes postales, prendre les enveloppes, ouvrir toutes les enveloppes et avoir tout le mieux. Vider les enveloppes.
C'est ça le Shekula.
Et vider aussi les banques à changer le nom de Jody Kachama à métal, son nom. Ou bien utiliser le nom de Jody Kachama pour dévaliser tout ton compte. Et tout ça, ça nous a amené beaucoup de combis ici, beaucoup de minibus. C'était une sorte pour quelques-uns
de blanchiment d'argent.
Beaucoup de flat hôtels. Ça, c'est donc l'infraction d'origine d'où est venu l'argent.
D'accord.
Donc, dans l'ensemble de cette loi, il définit tous ces termes pour permettre, n'est-ce pas, aux juges congolais, aux praticiens congolais, de ne rien rater en ce qui concerne les comportements qui sont prévus et punis par la loi.
On va accueillir des auditeurs. Nous parlons du blanchiment d'argent et crime organisé, financement du terrorisme. Pierrot Pagna, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à l'invité et bon début de la semaine à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Quelle est votre question?
Oui, moi je dis d'abord merci pour l'émission de nous avoir choisi cette thématique qui vient au moment où nous parlons et nous voyons à Lubumbashi et partout dans la République démocratique du Congo un système qui est à Paris, le kidnapping, où nous avons des vidéos et parfois il y a eu même des gens qui sont arrêtés pour cette pratique là. Je dis d'abord merci et nous avons suivi ce qu'il a dit. Le blanchiment des capitaux, c'est-à-dire rendre quelque chose qui était sale, rendre cette chose-là propre. Alors, nous nous inquiétons, parce que d'abord, le travail qui fait l'UGF, donc la plupart des politiciens allaient être tous en prison, si on entend par cette définition-là. Alors, ce qui nous a intéressé, c'est quelque chose. On a dit que la loi exigeait à ce que personne ne peut sortir, ne peut quitter avec notre pays avec plus de 10 000 dollars. Alors, pour cela, les enfants des autorités qui se promènent, qui vont dans des bars avec plus de 10 000 dollars, ils font des affaires, ils enivrent des gens là-bas, ils renferment des jeunes filles. Ça, nous pouvons appeler comment? Si on bloque seulement ceux qui sortent nos frontières avec 10 000. Mais il y a ceux-là qui entrent dans des boîtes de nuit avec plus de 10 000. Et ils utilisent ça, ils sont là-bas avec des filles, ils font beaucoup de choses là-bas. Maintenant, nous pouvons appeler ça comment? Et si cette loi existait bel et bien, dans ce pays ici, nous avons vu des gens condamnés pour ce genre de choses, et cette personne-là arrive peut-être à fuir cette prison. Il part dans une autre province et là-bas il vit, il commence à faire sa vie calmement. Mais comment nous pouvons appeler ça? Nous avons dans ce pays beaucoup de lois. Pourquoi on ne parvient pas à suivre et à surveiller ce que nous avons comme loi, mais on nous distrait toujours avec d'autres propositions de lois, alors que ce que nous avons, ça souffre d'application. Je dis et je vous remercie.
Bien, merci Pierrot Pagna. Safari, vous êtes à Iga Barrière. Bonjour.
Bonjour à vous. Je salue aussi monsieur l'invité. Bonjour à tous les deux.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport au blanchiment d'argent?
Oui, d'accord. Par rapport au blanchiment d'argent, je vais parler du cas où, chez nous, je vois, il y a des ventes de la drogue. Alors, vous allez voir que. Je ne sais pas si la loi de la RDC cible certaines personnes et elle laisse les autres. Vous allez voir le vendeur de ces drogues-là, ils sont reconnus au niveau du, par exemple, parquet de la République. Ils sont là et ils ne seront pas condamnés lorsque vous voulez les inquisés. Ils disent clairement que moi, vous n'allez rien faire, qu'est-ce que vous allez faire d'autre? Alors, la question que j'aimerais poser à M. Levité est de savoir si la loi existe en RDC et puis est-ce que la loi en question cible certaines gens. D'autres gens, de certaines gens qui font par exemple cette drogue-là, ils font de grands exploits. Je ne vous trompe pas, ils font de grands exploits et vous allez croire qu'ils font ça de marchandises normales. Donc alors, ils sont de vendeurs de la drogue. Voilà, c'était ça ma question. C'est une bonne journée à vous.
Bien, merci. On va donner la parole à Maître Gaston de Puy-Diofa. Bonjour.
Bonjour, Jody.
Quelle est votre question, Maître Gaston?
Cette infraction existe, je sais, je vais un peu que Maître Rifin, mon frère, puisse nous éclairer un peu par rapport au cas où les cas, donc ceux qui dépensent, quoi, ceux qui investissent, ceux qui ont des biens, pouvait justifier, dans les cas où ils pouvaient justifier l'origine de leur bien d'où ils prouvaient ces biens-là, moi je pense que cette infraction n'est pas vraiment d'actualité dans notre pays, parce que à mon avis, ce sont les détournements de la corruption qui fait que les gens puissent avoir le bien que plusieurs autres par rapport à ce qu'ils gagnent officiellement. Parce que l'infraction de blanchissement des capitaux, à mon avis, ce sont les actes qui sont hors commerce, c'est vraiment dans le domaine commercial où certains actes sont hors commerce et les gens exercent ces activités-là et ne sont redevables nulle part parce que ces actes-là sont interdits par la loi. Les cas de la prostitution, je pouvais aussi ajouter les cas des images obscènes. Hein. Vous le savez, je dis qui est actuellement sur la toile. Engendre beaucoup de recettes et ces gens-là qui produisent ces comptes interdits, mais ils ont la possibilité de vendre leurs produits et ils gagnent beaucoup d'argent sur l'internet et ils sont pas redevables, ils payent pas l'impôt. Il y a même les chanvres, je pouvais même donner l'exemple du chanvre qui est consommé chez nous ici. L'épée, les gens qui vendent du chanvre, est-ce que vous avez déjà vu une personne vendeur du chanvre que nous connaissons avoir possédé des grands biens, ou parce que c'est la drogue la plus consommée, ou de jaguenes ou les alcools que nous consommons.
Oui. Merci. Nous, merci, là, maître. Merci, fait, maître Gaston. Oui, oui. Maître voilà. Luc, vous avez la parole.
Merci, Gaston, pour, on te suivait attentivement. Mmh. On va commencer par, Gaston Gandou qui a commencé à, pas Gaston Didiofa, mais Gaston Gandou qui a parlé de 10 000 emboîtes. Est-ce que on peut blanchir 10 000 emboîtes
par les enfants des autorités qui vont qui s'amuser. Sont...
Mais déjà, lorsqu'on est en boîte de nuit, on est blanchi, pardon. On a le produit du crime sans l'avoir blanchi. Ça veut dire, tout simplement, bah, par exemple, son père a détourné ou a été corrompu et a distribué comme des petits pains l'argent à ses enfants. Et ses enfants s'amusent. En principe, en boîte de nuit, lorsque vous avez autant de devises, les services de sécurité qui vous attrapent, peuvent saisir cet argent-là pour que tu en donnes l'origine. Que tu en donnes l'origine.
Les services de sécurité. Mais il y a des gens qui font des folies dans les boîtes, ils peuvent dépenser.
Ils peuvent dépenser, mais l'origine de l'argent. Parce que c'est dangereux, non?
Est-ce qu'on va aller vérifier jusque là-bas?
Mais c'est lui qui doit dire. C'est la personne qui dépense lorsqu'il est interpellé qu'il dise. Hein, parce que, qu'ils disent, monsieur, qu'ils disent. Parce que, vous voyez, donc, tout ça, c'est parce que nos services ne fonctionnent pas pour accompagner l'applicabilité de lois, et c'est ce que nos populations dénoncent. Nous avons de belles lois, mais lorsque les services n'accompagnent pas le gouvernement pour faire respecter les lois et la justice, lorsqu'ils vous attrapent, condamnés.
Et quelle est la peine qui est prévue par la loi lorsqu'on vous attrape?
Il y a plusieurs peines, parce qu'il y a le transport de l'argent, lorsque vous traversez, il y a le trafic de l'argent, il y a donc plusieurs comportements que la loi réprime. Et la peine, c'est entre 2 et 5 ans de prison, vous voyez. Mais la peine principale, c'est d'abord la saisie du produit de l'infraction.
On saisit d'abord l'argent.
On saisit l'argent et on saisit tous les billets qui ont servi, n'est-ce pas, à blanchir. Et toi-même, tu vas en prison. La peine, c'est de 2 à 5 ans. Donc, c'est selon le comportement. Et il y a des amendes. Si vous avez fraudé, par exemple, toutes ces entreprises-là, qui, pendant plusieurs temps, n'ont pas déclaré leur revenus, en fait, qu'ils puissent être imposés l'impôt. Et que, au travers de cette loi, au travers des enquêtes, on constate que vous avez transféré de l'argent. Les amendes de l'argent frauduleusement de la frontière, sans respecter la législation, vous avez transféré des capitaux, eh bien les amendes vont au-delà parce que la loi parle de montants et l'idée multipliée par 3 ou par 4, vous voyez. Et donc, comme on dit, ceux qui aiment l'argent n'écoutent que le langage de l'argent. Comme elles sont dans l'argent, il faut donc les sanctionner pour que leurs entrailles tracéissent parce que tout simplement, elles adorent l'argent. Il faut les toucher là où ça fait très mal. Oui. Là où ça fait très mal, c'est quoi? C'est dans leur porte-monnaie. Dans leur porte-monnaie pour qu'ils sentent que vous avez détourné de l'argent au dépens du trésor public. Vous devez payer également la facture très salée pour que vous ne puissiez plus revenir sur les comportements.
Bien, maître Edmond Bokolo nous a écrit sur Facebook, il dit la peine prévue est de 5 à 10 ans et une amende dont le maximum est égal à 6 fois le montant de la somme blanchie. D'autres peines peuvent être prononcées comme l'interdiction à titre définitif ou pour une durée de 5 ans ou plus d'exercer directement ou indirectement certaines activités professionnelles. La fermeture définitive ou pour une durée de 5 ans au maximum de leurs établissements ayant servi à commettre cette infraction. La dissolution lorsqu'elles ont été créées pour commettre les faits incriminés. Au paiement des frais, des publications, de la décision par la presse écrite ou par tout autre moyen de communication audiovisuelle.
Voilà, ce sont les peines complémentaires. Donc il y a les peines principales et les peines complémentaires pour que définitivement vous ne puissiez plus revenir sur les attitudes, sur ces comportements-là qui sont décriés par la loi. Donc tout ça c'est pour alerter, vous savez, ces déploiements d'émissions ont ces caractères pédagogiques où nous enseignons, nous éduquons, nous formons notre population à être vigilants parce que ils ont été prévenus. Alors, l'autre a posé la question de savoir si dans notre pays, il y a des autorités qui sont arrêtées en Kinshasa et qui fuient la prison et ils vont, c'est la coule douce dans d'autres provinces. En tout cas, en ce qui concerne les informations que nous avons, quitter la prison à Kinshasa, par exemple, Seperka, Makala, Undolo et aller en province, ça n'a jamais presque pas lié parce que c'est pas facile de quitter la prison et de rester en RDC. Nous avons le seul cas où un prisonnier condamné à quitter la prison, c'est souvent généralement lorsque les politiques le décident. C'était Gedeo Kyungu Mutwanga qui avait quitté la prison de Kasapa par évasion et qui s'est retrouvé en politique et être utilisé pour ceci, tel ou tel autre fait. Mais lui avait été condamné pour crime
internationaux, crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Et donc, ce n'était pas en ce qui concerne le blanchiment d'argent. Mais le blanchiment d'argent, principalement, comme c'est le cas qui nous intéresse aujourd'hui, c'est lorsque vous étiez dans des activités criminelles qui vous ont donné des revenus, d'importants revenus, et vous vouliez sortir comme Mwana Malamu, vous blanchissez, n'est-ce pas, ces revenus-là par des activités qui semblent être des activités exemplaires, des activités humanitaires, des activités...
Si, par exemple, il y a Tambwe Kasselele de Beni qui nous dit, ici chez nous, dans les zones en conflit, il y a beaucoup des cas de blanchiment d'argent et du terrorisme, les gens qui se font de l'argent. Est-ce qu'on peut dire, par exemple, on parlait du coltan, du sang?
Ouais.
Est-ce que ces gens qui tuent les gens à l'est et ils vont l'argent, ils ont l'argent pour fabriquer le téléphone?
Mais les gens sont scandalisés que dans les territoires où il y a eu la guerre, c'est là où prospèrent les affaires. Les territoires où il y a la guerre, c'est là où prospèrent les affaires. Parce que tous les opérateurs économiques, ou la plupart, blanchissent, n'est-ce pas, les capitaux qui viennent des minerais du sang. Regarde les minerais à Massissi, Rubaya, c'est-à-dire dans les territoires de Massissi, c'est parmi les grandes carrières. Ce sont des enfants qui sont tués chaque jour là-bas parce que ce sont les creusers des enfants. Bihambwe, Rubaya. Lorsque vous allez à Beni, dans les carrières de cassiterite et de l'or, et de bois, et du café, ce sont des enfants qui sont utilisés. Donc, tous ces minéraux-là qui engraissent l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, eh bien, sont des minéraux de sang. Donc, ce sont des minéraux de ça. C'est pas pour rien qu'il y a eu le rapport Mapping. Il y a des minéraux de ça qui engraissent des pays voisins, qui engraissent des opérateurs économiques à l'est, qui engraissent des opérateurs économiques au Katanga, en province, annexe et province orientale. Et les enquêtes de notre justice militaire et notre justice des droits communs pourront permettre que toutes ces personnes-là on aille à mettre la main sur eux.
Donc, est-ce que cela, on peut mettre cela sur le compte du blanchiment?
C'est le blanchiment des capitaux, ça veut dire de l'argent qui vient des infractions, ça veut dire le trafic illicite des minéraux, les fraudes des minéraux, et vous en faites des immeubles, vous en faites des complexes commerciaux. Ça, c'est le blanchiment d'argent.
Bien, Peter Ikina nous a écrit, maître Peter Ikina depuis Mbandaka. Il dit, je ne cesse de m'interroger sur l'existence et les rôles à jouer par l'Office des biens mal acquis, OBEMA, dans la recherche des conditions d'acquisition des richesses de certaines personnalités de notre pays. Parce qu'il n'est pas normal pour quelqu'un dorénavant connu comme un pauvre et qui, après avoir occupé un poste de responsabilité quelque part, devient extrêmement riche. Qu'est-ce qui a été le volume de sa rémunération comparativement à la dimension des actions qu'il pose? Tout cela, ça donne c'est matière à réflexion.
Je ne sais pas dans quel état se trouve l'Office des biens mal acquis aujourd'hui, parce qu'il est dans un état de coma dans lequel l'a entraîné les dignitaires qui ont récupéré leurs biens et en particulier qui ont corrompu la plupart des dirigeants de l'OBEMA pour qu'ils retournent l'empire immobilier. Et c'est un scandale parce que il y a un ancien premier commissaire d'État qui est encore en vie qui avait plus de 120 maisons à l'OBEMA, Office des biens mal acquis, et nous avions lu le rapport qui avait permis qu'on lui retourne tous ces immeubles bien mal acquis en rétrocédant aux dirigeants de l'OBEMA de l'époque quelques immeubles. Sur les 120, il a donné, on a parlé d'une dizaine et on lui a retourné tout. L'OBEMA s'est retrouvé presque dans la corruption totale. Les dignitaires venaient, il a 80 maisons auprès de l'OBEMA, des maisons qui sont devenues de l'État. Il rétrocède autant à des personnes et on lui retourne tout l'empire. On appelle ça des empires immobiliers. Donc je ne sais pas dans quel état se trouve actuellement l'OBEMA, mais je sais que c'est dans un état comaté, un coma, parce que l'OBEMA presque n'a plus rien à gérer, parce que la plupart des immeubles ont été retournés. Mais je sais que l'IGF, l'Inspection Générale des Finances, qui a le devoir notamment de veiller à la façon dont on gère le trésor public, à la façon dont on gère les finances publiques de l'État par les dirigeants, de quelques niveaux que ce soit, avait été mis en veilleuse pendant plus de 15 ans, pendant une vingtaine d'années. L'IGF ne pouvait rien faire, la Cour des comptes non plus, et que laissez-nous la récréation continuer, vous restez là-bas, gardez votre silence, vous la fermez. Et ils l'ont fermé pendant environ 20 ans.
Et
maintenant ils sont arrachés, vous voyez, ils sont dans tous les sens. Maintenant, depuis qu'on les a libérés, ils sont dans tous les sens. Et c'est pour les biens du trésor public et de la bonne gestion. Les inspecteurs de finances, comme on dit, la paire des gendarmes et le commencement de la sagesse. Maintenant que tout le monde sait que l'IGF est là, tout le monde est aux aguets maintenant. Tous les dirigeants de toutes les entreprises et tous les ministères, ils sont vigilants parce qu'ils savent que l'IGF est désormais debout.
Blanchiment d'argent, blanchiment des capitaux et financement du terrorisme, on en parle. Alors, je vais lire rapidement la réaction de Charles depuis le Sud Kivu. Il dit possible de revoir, il demande si c'est possible de revoir cette disposition des retraits, de ne pas retirer plus de 10 000 dollars. Surtout pour les ONG, parce que ça perturbe beaucoup dans l'organisation des activités sur le terrain. Une activité qui nécessite 30 000 dollars, il faut aller à la banque pendant 3 jours pour retirer moins de 10 000 dollars. Où le porteur du chèque passe toute la journée à cause de l'engouement au niveau de nos banques. À mon avis, cette procédure perturbe nos activités en tant qu'ONG.
D'ailleurs, les ONG sont parmi les premiers suspects qui blanchissent.
Les ONG.
Donc, ils nous écoutent. Ils sont parmi les premiers suspects. Pourquoi toutes ces opérations de vous vanter, vous ne les faites pas par voie bancaire? Par exemple, si vous avez réussi un marché de construction d'une école, de réhabilitation de tel hôpital, vous ONG, pourquoi cet hôpital-là, vous ne lui demandez pas son compte bancaire
et vous faites
un nombre de virements dans son compte? Il y a beaucoup de trafic. Vous voyez, l'Union européenne avait financé la construction de prisons en RDC. Il avait financé la construction ou la réhabilitation de certains palais de justice. Eh bien, je donne l'exemple. Sur 500 000 dollars de financement, n'ont servi sur terrain que moins de 50. Le reste a été détourné dans toutes sortes de primes, d'avantages et consorts.
Séminaires, ateliers,
tout ce que vous connaissez. Oui. L'argent dont les ONG, nous vous lançons la figure. Nous vous lançons la figure parce que dans les comportements de tous ces marchés, et lorsque je parle de nos ONG,
non, mais ce ne sont pas toutes les ONG qui sont dans
naturellement, on ne dit pas toutes les ONG. Il y a les nationaux et les internationaux. Oui. Tous inclus, mais pas toutes les ONG parce qu'il y a toujours ceux qui sont exemplaires. Mais nous donnons juste des cas d'espèces parce que tout simplement, à l'époque, je me rappelle que ça créait une crise lorsque le ministère de la Justice avait décidé d'ordonner une audite des ONG. Et ils se sont agités dans tous les sens parce qu'on sait que s'il y a un audit, c'est un scandale. Alors, tout ce qu'il y a comme financement, jusque là, ça fait une vingtaine d'années, ne sont pas audités par notre gouvernement. Ne sont pas audités, surtout en particulier à l'est du pays. Beaucoup de financements sans audit. Et donc, les ONG, pour la plupart, c'est pourquoi vous voyez que l'ONG a fermé, mais les dirigeants, les numéro 1 de l'ONG, le secrétaire général, ou si vous le président de l'ONG, a construit des 3-4 immeubles, ou 4 écoles et consorts. Donc, tout simplement, pour dire que non, dans les secteurs des ONG également, les blanchiments et monnaie courante.
Bien, Gédéon Weke, étudiant en L1 droit à Mbandaka, à l'université de Mbandaka, nous écrit, quelles sont les conditions qui doivent être réunies pour qu'une infraction des blanchiments soit constituée?
Alors, principalement d'abord, l'origine criminelle des fonds, ensuite, l'acte de blanchiment. D'abord, ça peut être d'abord en ce qui concerne ceux qui voyagent, le fait qu'on te trouve en train de traverser la frontière avec l'argent. Donc là, l'infraction est réunie. Le fait qu'on te trouve, c'est toi, donc, lorsqu'on fait le contrôle de routine à l'aéroport, à la frontière, au beach, et vous avez des espèces.
On vous attrape avec l'argent. Prenons le cas de Bakonga.
Bakonga avait été attrapé à Brazzaville. Et les services ont dit qu'il avait des millions et on a trouvé sur lui seulement 32 000 dollars. Et le procès est lié, c'était un procès roulé. On n'a pas trouvé les 2 millions de dollars sur la personne. Et c'était très compliqué parce que on n'a même pas donné l'origine criminelle des fonds parce que c'est important que l'origine, les 32 000 dollars qu'on a trouvé sur lui, l'origine.
Que ça provienne de...
Il faut que ça provienne d'une origine
des activités criminelles.
Ce qui n'était pas le cas. Alors ça créait problème parce que le parquet n'a pas prouvé que Willy Bakonga a les 32 000 dollars qu'on a trouvé sur lui et non les 2 millions de dollars devant la Cour de cassation. Provenait d'une origine criminelle. C'est important parce que la loi protège tout le monde et dans tous les cas d'espèce, la loi doit être respectée, l'origine criminelle doit être identifiée et cette origine-là est identifiée notamment lorsque la personne est incapable de dire « Bongo yoti wapi ». Parce que Willy Bakonga dit qu'il est ministre et sénateur et de son salaire, il avait cet argent. Donc, lorsque surtout il allait pour les soins, il pouvait, n'est-ce pas, détenir cet argent. L'origine criminelle, nous avons dit, ça peut être le trafic d'organes, le trafic de drogue, le trafic d'êtres humains et toutes sortes d'activités criminelles. Toutes sortes d'activités, par exemple, la vente de l'alcool. c'est une activité criminelle. Et d'autres infractions qui produisent de l'argent. L'association des malfaiteurs pour attenter au bien. Les koulouna, les kidnappings à l'est du pays, comme on a dit.
Oui, qui donne l'argent, parlé, oui.
Kidnapping moyennant rançon. On a levé tes enfants, on dit non, 100 000 $. On a levé ton épouse et ou ton mari, on dit autant. Tout ça, ce sont des activités criminelles qui génèrent de l'argent. Vous voyez, cet argent est sale.
Et le kidnappeur peut prendre kidnappeur, cet argent, il construit une école.
Il construit une école.
Il s'agit d'un blanchiment.
Il construit une école où il envoie l'argent soigner sa grand-mère ou sa mère au village. Oui. C'est un blanchiment. Il envoie 50 000 $ alors que lui ne travaille pas. Le fait de faire soigner sa mère, c'est un acte louable. Mais l'origine de l'argent est criminelle. Donc voilà le blanchiment. Donc le blanchiment donne une position acceptable, supportable comme uniforme, alors que l'argent lui-même vient d'une origine criminelle délictueuse.
Donc la sanction est connue,
la sanction 5 à 10 ans
d'emprisonnement.
Donc évidemment c'est l'aggravation de la peine lorsque la personne est trouvée de mauvaise foi ou exerçant ses activités. Là, j'ai parlé des opérateurs économiques d'une certaine origine pour ne pas stigmatiser. Qui ne faut que ça? Qui ne faut que ça? Il y a des acteurs, des opérateurs économiques expatriés ici qui ne sont venus ici que pour les mines. Qui ne sont là que pour les mines. Et les mines, dans la fraude totale, il fait 10 ans de fraude. Comme celui-là avait été condamné après avoir fait 14 ans au Congo de fraude.
14 ans
de fraude. Il n'a jamais été attrapé. Et ces jours-là, nous rappelions même que dans la tradition congolaise, les voleurs qui volent dans un champ peuvent se laisser toujours impunis pendant plusieurs temps. Mais le jour où on attrape un parmi eux, celui-là paye le prix de tout ce que les autres avaient fait par rapport, n'est-ce pas, au passé de ces chats-là. Donc, ils ont volé, n'est-ce pas, la plupart de la moisson. Donc, bref, la loi est là pour discipliner, pour rappeler aux gens que non, désormais, les choses ont changé au Congo. Et si vous êtes attrapé, vous serez condamné.
Blanchiment d'argent et financement du terrorisme, que dit la loi? Et maintenant, parlons du financement du terrorisme. C'est toujours la même peine ou bien c'est...
Non, mais c'est là où on va de 5 à 10 ans. Oui. Et pour les étrangers, après avoir purgé votre peine, vous êtes expulsé du territoire national. Vous ne pouvez plus exercer dans notre pays. C'est important parce que le financement du terrorisme, vous voyez, le terrorisme, ce sont les activités qui portent atteinte à la sûreté internationale. À la sûreté internationale. Les terrorismes sont donc ces infractions-là ou cette infraction-là qui terrorise les populations civiles, tout tendance confondue. Et on a considéré que ce terrorisme ne prospère que par les activités de leurs agents dans la plupart des pays. Et donc, parce qu'on doit contenir le terrorisme en coupant la source, comme on dit, le nerf de la guerre, c'est l'argent, il faut donc veiller à tous ces capitaux-là qui circulent sans contrôle. Et c'est ainsi que le Congo, à l'époque, avait été identifié comme étant l'un des pays dont les capitaux vont dans les pays, n'est-ce pas, qui sont les financiers principaux du terrorisme. Et à l'époque, on considérait que c'était le Liban, c'était l'Irak, c'était l'Afghanistan et le Pakistan. Il y avait donc des opérateurs économiques à Kinshasa.
Il y a des entreprises qui étaient identifiées ici.
Beaucoup des entreprises. Je ne vais pas les citer ici parce que pour nos auditeurs, beaucoup les connaissent.
Oui.
Ces entreprises, d'ailleurs,
qui finançaient le terrorisme.
Alors qu'ils étaient dans l'alimentation, dans les arènes alimentaires, dans les manufactures, et que ces entreprises-là avaient beaucoup de capitaux en dollars, et ils étaient fichés comme étant parmi ceux qui financent le terrorisme. Donc, le terrorisme prospère par ces activités criminelles qui procurent beaucoup d'argent et de l'argent non contrôlé, qui ne paye pas d'impôts. Et donc, et puis ces entreprises sont plus solides, plus importantes. Ces entreprises peuvent faire tomber un régime. Si vous ne voyez pas bien, parce qu'ils ont des capitaux. Mmh. Ils sont champions en corruption, ils sont champions en détournement, ils sont même champions en coup d'État. Ces entreprises arrivent dans certains pays à changer de régime. Ou à financer des candidats pour qu'ils passent comme élus président. Et ils trafiquent toutes sortes de choses. Donc, tout cela, pour que nos auditeurs puissent veiller que cette loi est déjà au Congo, dans tout trafic, dans toute opération commerciale, veiller que l'on ne puisse plus aller au-delà de 10 000 $ sans passer par voie bancaire.
Donc, pour freiner cela, freiner le blanchiment d'argent, personne ne peut retirer à la banque
plus de 10 000
un montant égal ou supérieur à 10 000 $.
Le trafic qui est sollicité pour ce genre de transactions, il faut le faire par voie bancaire. Si vous voulez payer une maison, vous voulez payer une voiture, eh bien, vous devez le faire par voie bancaire. Ça veut dire que votre client puisse donner son numéro,
son compte bancaire, vous versez l'argent dans son compte. Et vous dites, l'argent vient de tel endroit et va servir à quoi? Et vous verrez que dans la plupart des banques ici, lorsque vous voulez envoyer de l'argent à Mbujimayi, à Matadi, pour acheter une maison, on vous dira d'où vient l'argent. Qu'est-ce que l'argent va faire là-bas? Non, j'achète une maison. Et non, on libelle que non, ces 50 000 dollars vont à Matadi pour acheter une maison. La voie bancaire permet la sécurisation des trafics et des fonds et surtout la traçabilité.
Bien, Maître Rufin Louko, chercheur en droit et auteur de plusieurs ouvrages, nous vous disons merci et excellente journée.
À vous, Ota, et moi également, je remercie les auditeurs pour leur attention.
Okapi Rotrou. Faut revivre le tube des années 60, 70 et 80.
Balingi babina musique Africa.
Africa. Toi beaucoup et toi beaucoup.
Rumba, pop disco, slow. Des heures de musique congolaise, africaine, européenne et américaine. Lundi et mardi à partir de 23h et le dimanche à 21h.
Ça c'est bon, ça j'adore. Et même à Boston à Bruxelles, Roger Zabana Hollande, garçon la veille. Voyez qui en voyait bien.
Oti sante eme, tango to kutana kina yo. Esengo ya denga nini oyoka kina mojema. Tango na pongola kimono koke na lingio. Oti sante koma,
expingia la joie fonde tonke.
Eiko mon amour, ta se le bien que sa kone prima mi. Napona kio mirie de femme africaine, femme noire. Très affecté, Nabolimo, et Naboli à la reine des Sabas,
Roma de London, Mariam Zazou, Rapo Mika, Jean-Denis Zaba, Lili Balé,
Naba Wiki, nous sommes mon sac à main, Naba souffrante. Ma consolatrice, vos alliés, n'a saté de dene, dito colocola, au capina palca virunga, au masse, vraiment, qui me poutait sa maman, sa maté, et sa naya yo bolimo, sotito bimi, et sa laka toujours,
José Mungala, Santé Kama,
et ma
Mimi Yembo,
offre-moi ton amour, et ça n'a ya yo bolingo, la réclame ya boni, et ça l'a fait plein. Fais-moi plaisir, remplis-moi de ton amour. Oh, Roger Zaba,
ça sera plein,
maman.
Les
matins, quand il n'a pas de temps, il n'a pas de temps. Kale de mosse, il est bien cassé.